Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans La France Bouge, au service d'un monde qui change. Nous avons une heure pour trouver des solutions, pour découvrir des talents, de l'audace, des idées, des femmes et des hommes qui accompagnent les changements de notre société. La France Bouge, c'est votre rendez-vous des entrepreneurs et de nos pépites françaises. Au sommaire de votre émission de ce mercredi 18 mai, on sort d'une crise sanitaire. Est-ce que les ventes dans le numérique continuent? Le marché de la seconde main est en pleine explosion. Gros plan sur un grand centre commercial en ligne. Et oui, c'est Rakuten et son patron France est l'invité de La France Bouge. À la une, en effet, acheter ou louer des voitures, des appartements, trouver-t-il une babysitter? Mais sur cette plateforme, il faut avoir au moins trois parrains. Ça s'appelle Gens de Confiance et c'est la start-up du jour. Ensuite, direction Lille-sur-la-Sorgue. Dans cette ville près d'Avignon, nous serons au cœur d'une commune mondialement connue pour ses brocantes et ses antiquaires. Elle existe depuis les années 60 et c'est la saga du jour de Quentin Paillet. Le pitch des trophées Europe 1 de l'avenir avec notre partenaire la CCI et Nathalie Carré. Bonjour Nathalie.
Bonjour Elisabeth. Alors aujourd'hui, on va recevoir Conteneur Privé. C'est une solution pour livrer ses colis lourds ou volumineux en quelques clics.
Rendez-vous à 13h45. Et puis en fin d'émission, demain, un emploi. Aujourd'hui, 2350 postes à pourvoir. Où ça? Mais il faut attendre la fin de l'émission pour le savoir. Eh bien oui, c'est ça, La France Bouge. Restez avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h et vous pouvez nous suivre en direct sur europe1.fr. Toutes ces entreprises qui innovent, ces initiatives positives, c'est ici à La France Bouge. Et aujourd'hui, une émission centrée sur le numérique. On le sait, le numérique, c'est l'un des grands gagnants de la crise sanitaire. Et on va en parler jusqu'à 14h avec un acteur présent en France. Bonjour Fabien Versavo.
Bonjour.
Bienvenue dans La France Bouge.
Merci.
Vous êtes le PDG de Rakuten France. Rakuten, c'est japonais. Hein. C'est né il y a 25 ans, c'est présent dans 40 pays. La France a été l'un des tout premiers pays dans lequel Rakuten a investi. C'est une place de marché, hein. C'est une sorte de grand centre commercial en ligne. Rakuten a acheté une entreprise que vous connaissez sûrement tous les auditeurs, hein. C'est Price Minister. C'est devenu Rakuten France, 500 salariés en France. Fabien Versavo, il paraît que Rakuten, dans le vocable japonais, ça veut dire optimisme.
Absolument. Rakuten, la traduction la plus proche, c'est en effet optimisme.
Ça tombe bien alors que vous soyez ici.
Écoutez, je suis ravi que l'on aborde tous les angles de l'optimisme dans le numérique ensemble.
Il y en a de l'optimisme dans le numérique, justement. Pour qu'on comprenne bien, Rakuten, c'est un grand centre commercial en ligne, c'est-à-dire que vous mettez en avant des produits, des marques qui ont peut-être des infrastructures numériques, mais d'autres qui n'en ont pas. Vous vendez leurs produits. Comment ça va en ce moment chez vous?
Alors nous avons démarré au Japon. Maintenant nous sommes une entreprise mondiale, vous l'avez dit, avec une vision qui est effectivement celle d'être un grand centre commercial, c'est-à-dire d'héberger les boutiques en ligne de tous les commerçants. Nous avons démarré avec les petits commerçants et puis depuis 2018, nous avons développé des offres particulières pour les grandes enseignes et pour les marques qui souhaitent vendre en direct. Mmh. Alors effectivement, avec le confinement, notre modèle s'est trouvé quelque part accéléré et l'intérêt des marques et des enseignes s'est développé. Donc nous avons beaucoup progressé sur le sujet ces 18 derniers mois et aujourd'hui, je dirais, le contexte est un peu différent. Dans cette ère post-Covid, si je puis dire, aujourd'hui les enseignes cherchent des nouveaux relais de croissance et donc elles sont de plus en plus intéressées par notre modèle qui est partenarial, inclusif.
Mais votre modèle, les gros concurrents, on les connaît, c'est les Amazon, c'est les Cdiscount. Il a de quoi de différent quand vous parlez de modèle? C'est quoi le modèle Rakuten France?
Alors, la grande différence, c'est que nous avons démarré au Japon en 1997 la première place de marché B2B2C, donc qui mettait en contact des consommateurs avec des commerçants. Nous étions les premiers. Et cette vision était de dire il y a quelque chose qui va émerger, qui va transformer la société, qui s'appelle le numérique et qui nécessite d'être accompagné, structuré pour qu'il soit bénéfique pour les consommateurs et pour les commerçants, que ça ne soit pas une menace. Et ça, c'est le point fondamental.
Une menace pour qui?
Une menace pour les commerçants existants, qu'ils ne puissent pas bénéficier de cette...
Pour ceux qui sont physiques et qui n'ont pas forcément l'infrastructure, tout ce qu'il faut pour mettre en ligne.
Absolument. Et c'est ce qui différencie, notre modèle d'autres plateformes, c'est que nous sommes un partenaire de croissance. Vous l'avez dit, nous sommes spécialistes de la place de marché. nous ne sommes pas nous-mêmes des commerçants.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas une marque Rakuten qui va vendre des stylos ou des... Voilà. Vous mettez en avant les marques.
Absolument.
Vous les
vendez. Notre seul métier, c'est d'apporter des boutiques virtuelles, une extension de présence, une extension d'opportunités de vente aux marques et aux enseignes.
Nathalie Carré.
Alors vous parlez d'avoir démarré au Japon. Nous, on se souvient en France de Price Minister que vous avez finalement racheté. Et ça avait commencé par l'achat-revente de produits d'occasion, donc entre particuliers. Et là, on a vraiment l'impression qu'en fait, il y a plus de produits neufs maintenant. C'est quoi la répartition en fait, entre professionnels et particuliers, occasion et neuf finalement?
Alors, si vous voulez, aujourd'hui, nous avons quasiment 150 millions de produits sur nos étagères virtuelles qui sont disponibles pour les consommateurs et consommatrices français. Et je dirais que c'est environ 50% de ces offres qui sont des offres de seconde main, soit de l'occasion mis en vente par vous et moi sur la plateforme, soit de l'offre de produits d'occasion ou de produits reconditionnés, puisque ce sont... C'est une gamme de produits qui est en forte croissance aujourd'hui.
Ça représente quoi les offres de seconde main, puisque vous dites que c'est ce qui émerge?
Alors, en termes d'achat, cette fois-ci, c'est 6 produits sur 10 sur la plateforme aujourd'hui.
Oui, donc ça garde, c'est quand même bien l'ADN initial, en fait, ça reste majoritaire encore le produit d'occasion finalement.
Alors, en nombre de produits, oui. En volume de vente, c'est un petit peu moins, c'est 45%. Vous voyez, puisque par définition, un produit d'occasion est moins cher.
Alors avec les confinements, vous l'avez dit, l'ensemble de la consommation s'est joué en ligne. Est-ce que là, ça perdure?
Alors absolument, la consommation résiste et l'e-commerce progresse en France. Il était, je crois, d'environ 15% l'année dernière du commerce de détail dans son ensemble. Il est aujourd'hui sur un rythme de progression autour de 15% sur le premier trimestre. Donc on voit que le potentiel de développement de la part de l'e-commerce dans la consommation reste encore très important. Et si l'on prend l'exemple de pays comme l'Angleterre, l'Allemagne ou la Chine, par exemple, nous pouvons escompter 30-40% du commerce de détail.
Donc ça fonctionne bien. Pourtant, on assiste, on l'a vu encore hier avec Michel-Edouard Leclerc qui était l'invité de la France Bouge, il y a une hausse des prix, il y a une inflation qui est là, qui est présente, avec cette baisse du pouvoir d'achat. Est-ce que vous, chez Rakuten France, vous le ressentez aussi dans les achats?
Alors, ce que l'on ressent, c'est effectivement la montée en régime de la seconde main et du reconditionné, je l'ai dit, qui est plus rapide que le développement des achats de produits neufs. Et cela répond à deux tendances de fond, dont celle que vous avez évoquée, qui est évidemment l'inflation sur le prix des produits neufs, qui est liée au contexte économique et géopolitique. Et puis, d'une part, la progression constante ces dernières années dans l'esprit du consommateur, de la conscience écologique, de la volonté de consommer autrement et de manière plus responsable. Et notre rôle en tant que plateforme leader, c'est évidemment d'accompagner cette
mutation. Le changement de la société. Alors, c'est quoi le panier moyen chez vous?
Alors, le panier moyen se situe autour de 100 euros.
Ah, c'est beaucoup quand même.
Alors,
hein,
c'est un petit peu au-dessus, je crois, du panier moyen français qui est à 60 euros, je crois, actuellement. Alors, pourquoi? Parce que cela n'inclut pas, dans notre cas, les achats alimentaires, notamment, et les certains petits achats.
Il y a de l'alimentaire chez vous?
Alors, il y a une partie d'alimentaire, mais ça représente...
C'est quoi? C'est de l'épicerie?
C'est essentiellement de l'épicerie, et c'est 4 à 5% de nos ventes seulement.
Nathalie?
Vous avez mis en place un système de cashback pour tous les acheteurs en fait, sur la plateforme. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est ça qui fait
cashback,
on gagne de l'argent? On gagne de l'argent quand on achète. En fait, on récupère ces 5%, je crois, du montant de son achat. Est-ce que c'est ça qui tire le panier moyen?
Alors absolument, vous avez raison. Donc Rakuten, c'est deux choses. C'est effectivement une grande galerie commerciale qui héberge des boutiques, de marques et d'enseignes. Et c'est également un club de consommateurs et de consommatrices. Nous avons 12 millions de Français qui sont membres du club Rakuten. C'est une offre gratuite qui vous permet de cumuler des récompenses. Les Anglais parlent de cashback. On n'a pas trouvé de mot en français pour décrire exactement ce service.
C'est un retour sur achat.
C'est un retour sur achat.
C'est aussi simplement que ça.
Et donc, nos 12 millions de membres bénéficient, vous l'avez dit, de récompenses allant 5, 10, 15, 20%. Ça dépend de votre statut. C'est un peu comme dans l'aérien. Si vous êtes platinum et que vous êtes très actif sur la plateforme, vous avez plus de remises. Mais ce qui est unique et singulier dans notre cas, c'est que ce club vous donne du pouvoir d'achat, vous rend du pouvoir d'achat, 400 euros en moyenne par membre. Mais il vous donne également le pouvoir de revendre. Je l'ai dit, j'en ai parlé, lorsque vous êtes un consommateur et que vous souhaitez revendre un produit que vous n'utilisez pas, eh bien, vous avez également du cashback sur vos ventes et ça, ça n'existe pas en France.
On va continuer à en parler avec vous, Fabien Versaveau. Vous êtes le PDG de Rakuten France et vous restez avec nous jusqu'à 14h.
Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag.
Et si vous nous rejoignez, bienvenue dans La France Bouge, l'émission qui met en avant les entrepreneurs français, les pépites françaises. Aujourd'hui, on parle du numérique, on parle d'un centre commercial en ligne. Et oui, c'est Rakuten France. Nous sommes ravis d'être avec vous, Fabien Versaveau. Vous êtes le PDG de Rakuten France. Vous nous l'avez dit depuis le début de l'émission, hein, 45% des ventes sur Rakuten, ce sont des biens d'occasion. Quel type de produit ?
Alors nous sommes un généraliste, donc des produits culturels, des produits de jeux vidéo,
des livres,
d'équipements de la maison, absolument, des
de
produits
tout.
Électroniques, de tout.
De tout. Quand c'est d'occasion, on se demande toujours si ça va être fiable, si ça va être sûr. Comment sécuriser les échanges hein, entre les plateformes et les particuliers ? D'ailleurs, on a trouvé une plateforme à la France Bouge qui a décidé, qui a choisi de miser sur la confiance. Bonjour Ulrich Legrand.
Bonjour Elisabeth.
Vous êtes le cofondateur de Gens de Confiance. Gens de Confiance, alors on a plein de plateformes, on a Le Bon Coin, on a énormément de plateformes, mais vous, votre particularité, c'est pour ça que vous êtes dans la France Bouge aujourd'hui, c'est que Gens de Confiance a fait le choix de miser sur un modèle de parrainage pour sécuriser les échanges. Vous pouvez nous en dire plus ?
C'est exact, hein, c'est un peu ce qu'on apporte au marché. En fait, Gens de Confiance, c'est un site de petites annonces généralistes. Mmh. Donc, on peut acheter une voiture, vendre un appartement, louer une maison de vacances, par exemple, pour cet été, ou trouver une babysitter, il y a aussi des services, hein, et ou trouver un emploi, d'ailleurs, aussi. Mais ce qu'on apporte, et ce qui est différent, c'est que pour accéder sur Gens de Confiance, en fait, il faut être coopté par 3 membres du site. Et en fait, il faut trouver 3 parrains. Et alors, ce que ça apporte, la vertu, c'est que sur cette plateforme, sur Gens de Confiance, eh bien, le niveau de confiance est radicalement supérieur.
Mais et comment du coup, vous le savez ?
Alors, on le sait parce qu'on a plein de belles expériences. Et quand on fait confiance à quelqu'un, c'est un gisement de valeur énorme. C'est-à-dire que sur Gens de Confiance, on peut acheter un vélo avec un chèque. On sait que le chèque sera pas en bois, ce sera un vrai chèque. Mmh. Quand on loue un appartement, eh bien, on sait que le locataire va payer son loyer. Parce qu'en fait, ce système de parrainage qu'on a mis en place, qui est un peu vieux comme le monde, c'est un système de cooptation.
De cooptation, tout simplement, ouais, bien sûr.
Exactement. Et très classique. Hein, on n'a rien inventé là-dessus. Sauf que le web nous a permis de le faire à grande échelle. Et c'est vraiment ce qu'on apporte de différent. C'est notre innovation, en fait.
Nathalie Carré.
Même si on fait confiance, on recommande des gens qu'on connaît, il peut y avoir une brebis galeuse de temps en temps. Vous faites comment ? Est-ce qu'il y a des systèmes d'exclusion, finalement, si quelqu'un n'honore pas, justement, son l'achat de son vélo ?
Oui, ben oui. En fait, nous, notre vocation, en effet, c'est de protéger le bien commun. Et donc, on fait très attention. Et quand on a... quand quelqu'un nous signale qu'il y a eu une mauvaise expérience, on joue le rôle de médiateur. On joue le rôle de tiers de confiance. C'est-à-dire qu'on va essayer de savoir ce qui s'est passé. Et si c'est avéré qu'il y a eu un mauvais comportement, quelque chose qui était pas bien, eh bien, on va proposer à la personne, aux membres, de rectifier. Si ça marche pas, on fait appel au parrain. Et c'est ça la règle de Gens de Confiance. C'est qu'en fait, on est responsable de soi, mais on engage aussi la responsabilité de ses parrains.
C'est-à-dire que si je recommande quelqu'un, il faut que...
Ouais.
Voilà, il faut que je sois
sûr. Oui, vous m'êtes sûr.
Je m'engage.
Ouais. Oui, c'est ça. Mm. Exactement.
Mais c'est un peu comme dans la vie, finalement.
Le principe est là-dessus.
Même quand on recommande une personne pour un emploi, si on la recommande, c'est que vraiment, on est sûr. Enfin, on n'est jamais sûr, mais on s'y engage. On y met... c'est pas anonyme, quoi. C'est un geste que l'on fait.
Exactement. Mm. C'est exactement ça.
Fabien Versaveau, vous êtes le PDG de Rakuten France. Alors, vous aussi, hein, vous vendez des produits. 45% de vos ventes, ce sont des biens d'occasion. Quel regard portez-vous sur ce genre de plateforme ? Voilà, c'est une start-up qui a choisi d'utiliser le parrainage pour pouvoir effectuer des transactions comme ça en ligne.
Alors, j'adhère complètement à ce qui a été dit et... Une plateforme, et c'est ce que je dis et ce que je répète à mes équipes, une plateforme, c'est un producteur de confiance.
C'est vrai.
Notre premier métier, c'est de créer de la confiance, et pas uniquement sur la seconde main. C'est vrai lorsque je mets en relation un vendeur de livres à Châteauroux avec un consommateur qui est à Marseille, par
exemple. Vous vérifiez comment, par exemple, chez Rakuten ?
Nous, contrairement à Gens de Confiance, on ne s'appuie pas sur un système de cooptation, c'est une plateforme 100% ouverte. En revanche, nous avons environ 100 personnes qui rendent possible ce modèle de tiers de confiance, c'est-à-dire que, eh bien, ils suivent l'ensemble des transactions, ils sont en contact permanent entre l'acheteur et le vendeur, ils surveillent toutes les difficultés potentielles. Ils interviennent dans le sens de l'un ou de l'autre en cas de problème.
Donc c'est encadré, vraiment. Il y a un backup.
Il y a un backup et il y a un monitoring constant, d'une part. Ensuite, il y a des algorithmes. Il y a des critères de qualité et l'ensemble des transactions et des interactions sont scorées par des équipes qui déterminent la qualité, notamment des vendeurs, qu'ils soient professionnels ou particuliers. Et notre métier, c'est évidemment de donner plus de possibilités de vente à ces commerçants qui apportent un service extrêmement qualitatif.
Nathalie ?
Vous travaillez sur la note, en fait. C'est-à-dire que si on a, je dis n'importe quoi, 10 fois 5 sur 5, c'est bon. Si on a une fois 1 sur 5, mais qu'on a 10 fois à côté 5 sur 5, vous n'intervenez pas.
Vous vous adressez à qui, Nathalie ?
Pardon,
à Éric Legrand, pour Jean de Confiance ?
Non, à Fabien Versavaux.
À Fabien Versavaux, allez-y.
C'est-à-dire que, alors contrairement justement à Jean de Confiance, où dès qu'il y a le premier problème, Jean de Confiance intervient, vous, c'est l'algorithme qui dit à partir de X problèmes ou une mauvaise note, on intervient. C'est ça la différence ?
Alors, l'algorithme, en fait, il est multifactoriel. C'est-à-dire que vous avez une centaine de critères qui rentrent en ligne de compte de manière à être extrêmement granulaire et ne pas avoir une inertie qui peut être, en effet, ce que vous soulignez, l'écueil de ce modèle. Donc, d'une part, le mode de calcul nous permet de détecter très, très tôt des problèmes de qualité éventuels, alors, qui peuvent d'ailleurs être liés à des tiers, puisque dans la chaîne, lorsque je suis un Français et que j'expédie un livre ou une console que je revends,
il y a la poste au milieu,
il y a le transporteur entre les deux. Donc, c'est pour ça que, encore une fois, nous avons environ 100 personnes qui sont basées en France pour pouvoir interagir directement, car au-delà de l'algorithme, la présence d'équipe et la relation directe par téléphone ou par mail reste essentielle.
Ulrich Legrand, cofondateur de Gens de Confiance, qu'est-ce qui fonctionne le plus chez vous ? Je crois que c'est surtout les locations d'appartements, hein, puisque c'est là où on a vraiment besoin d'être sûr. C'est plus important qu'on a besoin d'avoir plus confiance que quand on achète un livre, par exemple.
Alors c'est vrai, c'est plus en adéquation avec notre proposition de valeur qui est la confiance qu'on retrouve, qui est extrêmement forte sur Gens de Confiance. Alors c'est en effet location immobilière, évidemment, puisqu'on le propriétaire veut que ses loyers soient payés et le locataire a envie d'avoir un propriétaire compréhensible. Et donc il y a aussi tout ce qui est location de vacances, en fait, où on est très c'est une catégorie qui est très très forte sur Gens de Confiance. Donc c'est louer sa résidence secondaire parce qu'on l'utilise pas et en fait elle est vide. Et en fait, ce serait très bien que quelqu'un puisse en profiter pendant ce temps-là. Et puis, ça permet de payer les frais de sa maison. Donc, c'est quelque chose aussi. On est très présent sur un marché un peu différent de ce qu'il existe par ailleurs. Et aussi, en fait, sur tout ce qui est service à la personne. Parce qu'on ne confie pas ses enfants à n'importe qui. Donc, quand on cherche une babysitter, une nounou, ou ses parents d'ailleurs, on cherche une personne de confiance. Et donc là, notre proposition est plus pertinente. Et puis, ce qu'on trouve aussi, c'est l'emploi. Parce que, évidemment, la relation employeur-employé, enfin les relations de travail, elles commencent sur une relation de confiance.
De confiance, évidemment.
Donc on arrive.
Pour nos auditeurs là qui nous écoutent et qui se disent mais moi aussi j'ai envie d'intégrer Gens de Confiance. Il faut faire comment ? Il faut qu'on trouve 3 personnes ?
Alors c'est ça. Le mieux c'est aujourd'hui ce que l'on conseille pour faire partie de Gens de Confiance, pour devenir membre, c'est de télécharger l'app qu'on trouve.
Donc il y a une appli maintenant. C'est plus le simple petit compte Facebook.
Tout à fait. Il y a une appli donc sur Google Store ou Apple Pay, l'Apple Store, pardon. Et en fait, en téléchargeant cette app, on va vous demander, donc faut mettre son vrai nom et son vrai prénom.
Oui,
ça c'est quelque chose d'important parce qu'il n'y a pas de pseudonymat sur Gens de Confiance. Mm-hmm. Ouais, on essaye
donc
de garder la vraie identité.
On télécharge l'appli et à ce moment-là, on rentre des critères.
Exactement. Et surtout, en fait, il y a un moment où on va demander si on peut accéder à votre carnet d'adresses, votre carnet de contacts. Il faut dire oui, parce que là, on va être en mesure de vous proposer des personnes que vous connaissez bien et vous allez pouvoir leur demander le parrainage. Et c'est un peu la clé du succès, elle est là, faut autoriser ça. Et du coup, ça permet en effet de trouver des personnes que vous connaissez, qui sont proches et à qui vous pouvez demander de vous parrainer.
Gens de Confiance, merci Ulrich Legrand d'être intervenu aujourd'hui dans La France Bouge. Fabien Versavaux, vous êtes notre grand témoin du jour, PDG de Rakuten France, et vous restez avec nous.
Europe 1, La France Bouge. Elisabeth Assayag.
Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour entre 13h et 14h sur Europe 1 autour d'un grand témoin du jour. Et aujourd'hui on parle du numérique. Le numérique c'est un des géants de la crise sanitaire et on est avec vous Fabien Versaveau, vous êtes le PDG de Rakuten France. Rakuten France, on aime à dire que c'est une sorte de centre commercial en ligne. Vous mettez en avant des produits de divers de grands commerçants et de petits commerces aussi. Vous nous l'avez dit depuis le début de l'émission, hein, 40% de vos ventes sont des produits d'occasion. Est-ce que comme des géants que nous connaissons comme Amazon par exemple ou Cdiscount, est-ce que vous utilisez, il existe des entrepôts Rakuten?
Alors nous avons fait un choix très différent. À l'image de notre positionnement vis-à-vis des commerçants, de ne pas leur faire concurrence, puisque vous l'avez rappelé, nous sommes une galerie marchande, mais nous ne sommes pas nous-mêmes une boutique au sein de cet espace. Eh bien, pour la logistique, nous avons décidé de nouer des partenariats avec des acteurs, notamment français, des startups et puis des plus grands réseaux logistiques, pour leur apporter...
Donc des entrepôts.
Des entrepôts, hein, absolument. Leur apporter notre réseau de commerçants, leur apporter nos 12 millions d'acheteurs et d'acheteuses en France et leur permettre de bénéficier d'un chiffre d'affaires, d'un peu de business
supplémentaire. Donc en fait, c'est des espèces de coworking d'entrepôts. C'est ça. Vous louez des espaces, vous nouez des partenariats et c'est là-bas que vous pouvez y mettre les produits. Le groupe a annoncé récemment l'acquisition qui s'appelle Sky Estate. Hein, c'est un spécialiste des activités liées aux drones. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah mais c'est formidable, ça veut dire que Rakuten, la plateforme de vente en ligne, va pouvoir maintenant mener des livraisons par drone.
Alors, en tout cas, l'expérimentation est assez avancée au Japon. Le Japon fait partie des pays qui ont beaucoup investi sur le sujet, même si la question de la réglementation reste évidemment le point le plus difficile. Mais donc, nous avons effectivement investi dans cette société, nous avons d'autres technologies en interne qui nous permettent non seulement de proposer des livraisons dans des zones extrêmement complexes.
C'est-à-dire les zones reculées,
livrer,
les campagnes.
Des zones reculées, exactement. Vous savez que.
Et ça, comment vous faites alors?
Eh bien, vous savez qu'au Japon, la structure du territoire, la présence de la population dans certaines zones rend l'activité d'e-commerce extrêmement coûteuse parce qu'une partie de la clientèle est difficilement atteignable. Et c'est là que la technologie des drones, finalement, permet de débloquer et d'améliorer la situation de ces populations, d'une part. Et ce ne sont pas uniquement des machines, hein. Il y a aussi l'intelligence artificielle, on en parlait tout à l'heure. Il faut énormément de puissance de calcul, de cloud, pour pouvoir faire que tout se passe bien.
Donc c'est en expérimentation, mais c'est quelque chose qui pourrait voir le jour
Alors c'est quelque chose qui pourrait voir le jour en Europe. Je crois qu'il y a des discussions, la réglementation en Europe n'est pas encore prête sur le sujet.
Elle n'est pas encore prête, mais il va falloir qu'on s'y mette quand même. Parce que ça peut être une vraie solution pour tous ces endroits reculés. Nathalie Carré, une question pour vous.
Oui, vous avez créé le badge Vision Air pour encourager les achats à faible émission de carbone. Mais du coup, avec ces systèmes de drones, etc., est-ce que ça n'augmente pas ces émissions carbone au moment des transports?
Alors, vous avez raison. En fait, pour l'instant, nous sommes dans le domaine de l'expérimentation. Et encore une fois, le marché de la livraison par ce type de véhicule reste encore à définir, à structurer. Mais le badge visionnaire, l'initiative que vous évoquez, en fait, plus largement, concerne nos initiatives en matière de fidélisation et en matière d'accompagnement des Françaises et des Français dans le développement d'achats en ligne plus responsables. Mmh. Et ce que nous avons fait, c'est que nous avons créé, j'en parlais tout à l'heure, le premier club de fidélité qui récompense qui vous récompense pour tous vos achats, mais aussi pour toutes les mises en vente, les reventes de produits d'occasion. Donc vous gagnez du pouvoir d'achat lorsque vous abaissez vos émissions de carbone, et c'est ça le badge visionnaire. C'est un système qui vous permet de contrôler quelle est votre empreinte réelle
donc
en tant qu'acheteur.
Donc c'est là-dessus que vous vous positionnez, surtout Rakuten France. Hein. C'est sur cette espèce de modèle circulaire. Pour vous, c'est hyper important, et c'est peut-être là-dessus que vous êtes en train de vous différencier des autres.
En tout cas, notre origine japonaise, encore une fois, structure énormément nos investissements et notre action en la matière. Vous savez que le Japon est un pays qui, évidemment, doit nous servir de modèle à certains égards en matière de défis énergétiques, de défis climatiques. C'est un pays dans lequel le taux de recyclage, notamment pour l'équipement de la maison, est parmi les plus élevés au monde. Et évidemment, en France, nous nous inspirons beaucoup de cette démarche que nous essayons d'adapter et de mettre en résonance des tendances de fond de la société française.
Chaque jour dans La France Bouge, Fabien Versavo, on se pose et on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'une association, d'un produit ou d'un endroit qui existe depuis longtemps en France, qui est toujours là. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller à l'Isle-sur-la-Sorgue, hein, près d'Avignon, après Saint-Ouen et Londres. Je ne sais pas si vous savez, mais dans cette ville de 20 000 habitants, il paraît que c'est le paradis des chineurs. L'Isle-sur-la-Sorgue, c'est la saga du jour.
Europe 1. La France bouge, la saga.
Bonjour Quentin Paillet.
Bonjour Elisabeth.
L'Isle-sur-la-Sorgue, depuis les années 60, c'est un écosystème de brocantes et d'antiquités qui s'est développé.
Oui Elisabeth, l'Isle-sur-la-Sorgue, c'est la ville parfaite si vous aimez chiner. Tout commence il y a un peu plus de 50 ans à l'initiative d'Albert Gassier et René Légier, deux antiquaires de la ville, qui organisent une brocante le 15 août 1966. Il y a alors 14 exposants, l'événement est un peu relaté dans la presse locale, ça plaît aux habitants. Les professionnels se déplacent et de fil en aiguille, l'Isle-sur-la-Sorgue devient la troisième place européenne de la brocante et d'antiquité après Londres et Saint-Ouen, les fameuses puces de Saint-Ouen à côté de Paris. Un immense succès que nous explique Pierre Gonsalves, le maire de l'Isle-sur-la-Sorgue.
Tu vois plusieurs facteurs. Déjà parce que le projet a été initié il y a longtemps et là, la concurrence était faible sur les places qui organisaient ces échanges, ces spécialisations. Ensuite, parce que au-delà de l'édition de la foire à la brocante, les antiquaires et brocanteurs ont identifié la ville de l'Isle-sur-la-Sorgue comme étant une ville dans laquelle ils pouvaient s'installer et ouvrir des commerces. Donc ça tient à cet enracinement de la profession. Et puis, je crois aussi, ça tient aux caractéristiques de cette ville de l'Isle-sur-la-Sorgue, qui est une ville qui commence à avoir une belle notoriété grâce à un cadre de vie assez préservé et une rivière totalement magique qu'est la Sorgue.
L'Isle-sur-la-Sorgue compte 300 antiquaires et brocanteurs installés un peu partout dans la ville. Mais il y a aussi des endroits qu'on appelle des villages, il y en a 5, comme des îlots où se rassemblent plusieurs dizaines de brocanteurs et d'antiquaires. Le premier, c'est le village des antiquaires de la gare, créé en 1978.
Et avec chacun des villages sa propre identité, avec aussi des personnalités. On a de vraies personnalités dans ce monde de décoration brocante. Et donc, les clients... Alors, il y a plusieurs typologies de visiteurs, mais les habitués connaissent les adresses, connaissent aussi la capacité à dénicher une telle pièce d'une époque ou d'un style de tel ou tel brocanteur. Après, donc, cette clientèle est établie, elle est arrivée à l'Isle-sur-la-Sorgue et fait vivre tous ces villages.
Différents événements rythment l'Isle-sur-la-Sorgue. D'abord, la foire internationale de la brocante à Pâques et à la Toussaint. Et surtout, tous les dimanches, l'avenue des Quatre Otages au sud de la ville se transforme en une grande brocante.
L'Isle-sur-la-Sorgue, Quentin, c'est donc la troisième place européenne de la brocante et d'antiquité. Pourtant, ce n'est pas l'économie principale de la ville. Ça nous a étonnés.
Effectivement, Elisabeth, ça peut paraître paradoxal. La ville est connue mondialement pour la brocante et les antiquaires. Ça a même forgé l'identité de la commune. Mais l'économie principale, c'est l'industrie pharmaceutique. On estime que la brocante représente entre 7 à 8% de création de richesses par rapport à l'économie globale de l'Isle-sur-la-Sorgue. Mais tout de même, la brocante a permis de développer un écosystème, notamment les hôtels, cafés et restaurants, grâce au tourisme.
Merci Quentin Paillet, ça fait vivre toute une ville, les brocantes, les antiquaires, et ça fait du bien. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré, en charge de l'entrepreneuriat à la CCI, et notre grand témoin du jour, Fabien Versavo, PDG de Rakuten France. On parlait de brocante, finalement, la brocante, ce sont les ancêtres de toutes ces plateformes en ligne, puisque vous nous l'avez dit. Vous êtes une place de marché en ligne avec énormément de ventes de produits d'occasion. Et justement, quand on vend des produits d'occasion en ligne, il y a quand même un sujet majeur autour de cela, c'est la contrefaçon. Comment vous, à votre niveau, vous luttez contre la contrefaçon?
Alors en effet, on évoquait le critère de la confiance tout à l'heure, et la qualité des contenus, le sérieux des vendeurs et des gammes de produits qui sont proposés représentent évidemment des enjeux majeurs. Alors, la contrefaçon, c'est quelque chose qui, tendanciellement, sur la plateforme, nous mesurons le fait que c'est une activité qui, fort heureusement, est de mieux en mieux contrôlée par l'ensemble des acteurs de l'écosystème Internet. Grâce notamment, je l'évoquais tout à l'heure, à l'intelligence artificielle et aux algorithmes. Aujourd'hui, nos modèles nous permettent de détecter de manière beaucoup plus précise qu'il y a 10 ou 15 ans, notamment, toutes les tentatives dépose d'annonces avec des produits qui peuvent être suspects. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nos équipes travaillent activement avec les ayants droit, avec les organisations publiques, pour pouvoir régulièrement être formés à la détection
d'objets. Donc, c'est plus contrôlé. Est-ce que ça signifie qu'il y en a moins ?
Alors, je le disais, quantitativement, on le mesure.
Il y en a, hein, c'est-à-dire combien ?
Ben, écoutez, alors, je ne peux pas vous donner les chiffres, mais ils sont extrêmement faibles et ils ont été divisés par 10 sur les 15 dernières années. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a moins de tentatives. Ça veut simplement dire que nos systèmes de détection sont beaucoup plus performants qu'au début de l'Internet.
C'est plus performant. Vous restez avec nous, Fabien Versavo, PDG de Rakuten France. Je vous propose maintenant d'accueillir un entrepreneur qui se lance lui aussi dans une solution pour transporter, expédier un conteneur lourd d'une manière aussi facile qu'un petit colis. Vous allez voir, ça s'appelle Container Privé. On y va.
Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag.
C'est parti pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Chaque jour, elle ou ils exposent leur projet d'entreprise. Ils ont une minute pour convaincre notre témoin du jour. Notre patron du jour aujourd'hui, il est exigeant, il est attentif, il est bienveillant. C'est un expert aussi. C'est Fabien Versavo. Vous êtes le PDG de Rakuten France. Nathalie Carré à mes côtés, de la CCI évidemment. Et un projet aujourd'hui qui a été lancé il y a à peine 2 mois. Bonjour Laurent Péot.
Bonjour Elisabeth.
Bienvenue dans la France bouge.
Merci.
Vous avez 56 ans, vous êtes le cofondateur de Container Privé. C'est une solution qui rend l'expédition d'un conteneur lourd aussi facile qu'un petit colis. C'est comme ça que vous l'avez raconté à nos équipes. J'ai bien aimé le résumé. C'est un domaine que vous connaissez bien, il faut le dire aussi, puisque vous avez passé plus de 10 ans chez Colis Privé. Vous avez été l'un des membres fondateurs. Et puis au moment de la crise sanitaire, vous avez eu l'opportunité de partir. Vous avez vendu vos parts et vous avez monté ce projet. Bon, le reste, vous allez nous le raconter. C'est quoi Container Privé ? Vous avez une minute pour nous convaincre. C'est parti.
Merci Elisabeth. Commençons par un constat. On a tous eu un jour besoin de transporter un colis encombrant sans avoir de solution facile, sinon qu'utiliser son propre véhicule. C'est ça la genèse de Container Privé. C'est une solution qui a été pensée pour les particuliers, pour leur permettre depuis chez eux d'expédier des colis lourds, encombrants ou fragiles en quelques clics. La solution s'articule autour d'un grand conteneur de 700 litres, 450 kg de charge utile. Il est sécurisable, il comporte une balise GPS et il va tout à fait bien au réseau de transport professionnel. En deux mots, le service, on dépose un conteneur vide chez notre client qui le charge, on le récupère plein et on le livre à destination. Pour aider le client au choix de notre service, sur notre site web, on a mis un petit simulateur que nous avons élaboré avec Michelin qui leur permet de voir en toute transparence les autres avantages de travailler avec Container Privé. Nous sommes 4 fois moins chers sur des longues distances par rapport à un véhicule particulier. Nous émettons 3 fois moins de carbone. Et bien sûr, le temps de conduite aller-retour est économisé à 100% puisque nous transportons. Si je résume en un mot la mission de Container Privé, c'est permettre l'expédition d'un conteneur lourd aussi facile qu'un colis, vous l'avez dit.
Merci, merci Laurent Péot pour Container Privé. Je me tourne vers Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat, la Chambre de commerce et d'industrie. Nathalie, chaque jour, elle épluche vos dossiers et elle a 2-3 choses à vous dire. Quelles sont les forces et les faiblesses, Nathalie, pour vous ?
Vous êtes le meilleur ami donc, de votre voisin de droite, hein, de toutes les plateformes de vente d'occasion. On a souvent quand même des gros objets qu'on n'achète pas parce qu'on ne sait pas comment les faire venir de loin. Donc avec vous, le problème est réglé. Puis bravo, vous avez un suivi du conteneur avec un GPS. C'est votre grande force par rapport à vos concurrents qui proposent de la livraison de colis lourds pas cher parce qu'entre particuliers, mais on ne sait jamais quand ça part, quand ça arrive. Et puis merci, pour vous avez 2 options, Zen ou Boost, et notamment l'option Zen, vous nous livrez le conteneur, on a le temps de le remplir, et puis on a le temps de le décharger à l'arrivée. Alors quelques suggestions pour la suite. Alors un détail, mais vous parlez de conteneur, et donc en fait on a l'image d'un énorme truc chargé sur un cargo. Mais non, en fait, le vôtre, il rentre dans une pièce puisqu'il fait 1,15 m de large, 74 cm de profondeur, 78 cm de hauteur. Alors justement, en fait, c'est pas facile de se rendre compte de la taille de votre grosse boîte, d'autant que notre inconscient collectif du gros truc se percute à des dimensions finalement adaptées aux particuliers. Donc déjà, parler en mètres et en centimètres plutôt qu'en millimètres. Nos souvenirs de conversion, c'était le primaire, hein, les conversions de millimètres.
C'est SM2.
C'est ça, c'est loin. Et surtout, mettez un lien dès la première page quand vous présentez le conteneur vers des exemples d'objets à transporter que vous avez d'ailleurs sur notre page. Hein.
Si vous nous suivez là sur europe1.fr, on a les images des conteneurs de conteneurs privés si vous nous suivez en direct.
Donc y a, tout est expliqué, mais ce n'est pas au bon endroit en fait. Et du coup, si je vais envoyer un canapé, en fait, ça ne rentre pas. Donc est-ce que vous prévoyez de développer des nouvelles gammes de conteneurs? Si oui, bah, dites-le, on peut vous faire peut-être une demande. Un autre détail, est-ce que vous fournissez le matériel pour emballer, caler les objets, pour éviter que ça bouge, etc. Bah oui, c'est bien, mais il faut... Et puis faites-nous des recommandations, parce qu'en fait, on n'achète jamais les bons emballages, on les paye toujours trop cher. Puis peut-être que pour des raisons écologiques, vous pouvez peut-être proposer que chacun laisse ses emballages dans le conteneur pour qu'ils soient réutilisés par les clients suivants. Pour vous faire connaître, n'hésitez pas à créer du contenu web autour du sujet du transport, de l'achat à distance, des bonnes techniques d'emballage, tout ce que les internautes saisissent sur leur moteur de recherche quand ils veulent faire un achat sur une plateforme d'occasion et que le transport les bloque ou quand ils s'interrogent sur la façon d'expédier ce fameux lave-vaisselle au cousin qui vient de s'installer à l'autre bout de la France. Puis vous avez un comparateur qu'il faudrait compléter avec l'ensemble des solutions existantes parce que vous êtes meilleur que toutes les solutions existantes et je ne le dis pas souvent.
Là, vous validez complètement, Nathalie. Ah, là, c'est rare qu'on vous entende comme ça.
Non, mais c'est rare. Je l'ai connu trop tard, ce monsieur. Alors déjà, la solution la moins chère, c'est le transport entre particuliers, parce que chez vous, on a la date de départ, la date d'arrivée, le suivi GPS, des professionnels qui transportent. Bref, chez vous, on a la sérénité par rapport au transport entre particuliers.
Elle est géniale, votre solution, en vrai.
Elle est géniale.
Bah, c'est vrai.
Vous êtes moins cher. Le transport par les transporteurs comme DHL, vous êtes carrément moins cher. Et puis, le simple petit reproche que je pourrais vous faire, c'est que le mot container peut porter à confusion.
C'est vrai.
C'est vrai. Ouais. Donc, ajoutez un slogan
c'est
à votre marque.
C'est contre-intuitif, container. On croit qu'on va faire un truc
container,
énorme.
Container, ça fait gros truc.
Ouais.
Ça fait gros truc. Alors, j'ai peut-être une idée, mais bon.
Ah, allez-y,
container
Nathalie.
Privé, expédiez vos colis lourds et volumineux en toute sérénité, comme une lettre à la poste.
Ah, c'est bien ça, le comme une lettre à la poste. Bon, allez, je vous laisse répondre. Je ne vais pas commenter ce que dit Nathalie. Laurent Péo.
Il y a beaucoup de choses. Mais en tout cas, merci pour ces conseils bienveillants, Nathalie. Donc, on a mis en fait que c'était aussi simple qu'un colis, parce que l'habitude des consommateurs, c'est d'expédier des colis. Donc, et pourquoi on s'est appelé container? C'est un petit anglicisme qu'on a mis dans notre nom. On a rajouté privé pour bien signifier que c'était pour le particulier. Pourquoi container? Parce qu'on a une volonté de s'internationaliser à l'avenir. Mmh. On a déposé le nom en dehors de notre pays. Donc voilà, ça, c'est plus un clin d'œil pour donner un petit côté industriel parce que nous venons du transport. Et donc effectivement, nous sommes commissionnaires de transport, nous sommes un transporteur routier. Et donc, effectivement, dans notre métier, on a des containers de marine 20 pieds, 40 pieds. Donc, on a voulu faire un clin d'œil à notre métier d'origine, en fait.
Fabien Versavo, vous êtes le PDG de Rakuten France. Votre avis, votre regard là-dessus?
Alors, non, je partage tout ce qui a été dit. Je trouve que c'est une excellente idée. Nous, on observe depuis les années 2010 et un petit peu avant le marché de l'occasion de particulier à particulier. Et on voit évidemment que ce marché s'est essentiellement développé autour des petits objets. Ceux qui, en effet, sont
Les livres,
faciles.
Les DVD, les petits objets.
Absolument. Mmh. Ceux qui sont faciles à transporter. Et votre solution va, sans aucun doute, permettre de débloquer de la croissance et des nouveaux usages vers d'autres segments du marché de la seconde main pour les objets beaucoup plus encombrants
donc, il répond
de la
complètement
maison.
À une demande avec container privé. Hein.
Absolument.
Vous répondez.
Une demande domestique, et juste pardon pour finir, je pense une demande internationale.
Oui,
parce
c'est
que
ça,
ce
mais c'est le projet de développement.
Et ce que vous avez dit, c'est qu'aujourd'hui, le marché de la vente entre particuliers, il est de française à français et inversement. Mais avec votre solution, on
si
va pouvoir connecter...
Si je veux vendre ma télé en Belgique ou même plus loin, en Italie, grâce à vous, je pourrais.
Vous pourrez. On a des demandes actuellement.
Mais j'en suis sûre, bien sûr.
De l'Espagne, de l'Irlande, de l'Angleterre.
Alors là, Laurent Péot, vous êtes arrivé au bout des fonds. Hein, donc vous allez lever de nouveau des fonds. Quels sont vos besoins immédiats? Comment pouvons-nous vous aider?
Alors, effectivement, nous avons développé cette solution sur nos fonds propres. On a encore un peu de temps devant nous. Mais si on veut accélérer, il faut effectivement que nous pensions ouvrir un peu notre capital, notamment pour la communication, notamment pour faire le container un peu plus grand que nous suggérait Nathalie. Voilà, donc on a pas mal de chantiers encore.
Donc on vous souhaite bonne chance. On valide à 100%, ça s'appelle Container Privé. Merci Laurent Péot d'être venu aujourd'hui pitcher dans la France Bouge. Et puis chers auditeurs, si vous aussi vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie Carré.
Et c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Promis juré, Charlotte Barécan et moi, on lit toutes les candidatures.
Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées Europe 1 de l'avenir. Il est 13h52 sur Europe 1.
Europe 1, 13h-14h.
On recrute 1000 personnes, voire 1500 personnes sur toutes nos agences, sur toute la France, sur tous les métiers.
C'est des centaines d'offres d'emploi qui sont à pourvoir.
Aujourd'hui, on recherche énormément de talents.
La France bouge.
Elisabeth Assayag.
Et oui, la France bouge, c'est déjà la dernière partie de votre émission. Nous sommes toujours avec Fabien Versavo, PDG de Rakuten France. Et c'est le moment de Demain un emploi. Et oui, parce qu'à la France bouge, on aime mettre en avant ces entreprises qui recrutent hein, et surtout que les mettre en contact avec de futurs candidats comme chez vous. Jean-Pierre Galera, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général d'Indexia Group. C'est un opérateur de services dans le multimédia. Ça existe depuis 22 ans. Vous êtes basé à Paris, mais le siège historique est à Romans-sur-Isère. 3200 salariés actuellement dans tout le groupe. Et si vous êtes là en direct dans la France bouge, c'est parce que vous recrutez. Vous recrutez 2350 personnes. Quand on m'a dit ça, j'ai dit non, mais est-ce que c'est bien sérieux? C'est bien 2350 personnes. 1000 en France?
Oui.
Et le reste?
Tout à fait, 2300 à l'échelle du groupe, un petit peu plus de 1000 en France et ensuite un petit peu plus de 1000 également sur l'ensemble des pays d'Europe dans lesquels nous œuvrons, puisque nous travaillons sur l'Espagne, le Portugal, l'Italie, plus récemment la Belgique, la République tchèque, la Suisse et bientôt l'Allemagne.
Eh ben, et donc on voit que c'est très international. Quand vous dites que vous recrutez, c'est quel profil? Vous nous avez dit à nos équipes des personnes plutôt jeunes, hein, parce que vous avez dit entre 23 et 30 ans, des débutants, j'ai envie de dire, des juniors.
Alors, pas que, mais effectivement, c'est à peu près le profil le plus fréquent et en pourcentage le plus important. En fait, nous avons de gros enjeux de recrutement dans le cadre de la création d'une filiale qui s'appelle Upside Store, qui est une filiale de distribution de notre activité, et plus particulièrement qui est un concept très innovant qui vise à commercialiser, mais en mode physique, c'est-à-dire en magasin, une très très large gamme de produits multimédia reconditionnés.
D'accord.
Et en mode physique. Et nous avons créé 100 magasins en 2021, nous allons en créer 100 de plus en 2022, et l'ensemble de ces créations déjà nécessite à peu près 900 postes.
Il y a un profil en particulier, parce que là vous dites beaucoup de chiffres. Alors, mais c'est quoi le profil? C'est quoi pour aller chez vous?
Ce sont des vendeurs, des responsables de magasins, des réparateurs de matériel multimédia, des hôtesses. Ce sont également des téléconseillers pour assurer toute la relation clientèle. Donc ce sont des profils plutôt relativement jeunes, de type Bac plus 2, Bac plus Bachelor, c'est à peu près ça en règle générale le profil type. Mais ensuite à côté, il y a évidemment tout un tas de profils que nous recrutons pour des fonctions back office qui accompagnent ce développement, c'est-à-dire côté ressources humaines.
Donc en fait, finalement vous êtes en telle croissance qu'il y en a partout.
Absolument.
Pour postuler, donc c'est sur le site hein, Indexia, INDEXIA. Merci à vous Jean-Pierre Galera. Fabien Versavo, vous recrutez chez Rakuten?
Absolument.
Combien
nous avons une centaine de postes ouverts actuellement.
Quel profil?
Alors, tout type de profil, toute nationalité, technologique, marketing, commercial, tout
et
type
là
de
aussi,
profil.
Rakuten France, onglet emploi et on y va. Quoi.
Absolument.
Merci à vous. C'est déjà la fin de votre émission. Merci à vous, Fabien Versavo. Je rappelle que vous êtes le PDG de Rakuten France. Nathalie Carré, nous, on va se retrouver demain avec un nouveau marché qui monte en puissance en France. C'est le CBD. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Hein. C'est de cannabis thérapeutique, comme on dit. Il y a un premier salon qui ouvre ses portes à Paris. C'est un phénomène. Et justement, on va en parler demain avec des start-up, des entreprises hein, qui se lancent sur ce marché. Tout ça, ce sera demain. D'ici là, le flash suivi de Christophe Ondelat. À demain.
Elisabeth Assayag sur Europe 1.